rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous culture. Nous avons aujourd'hui un programme très varié. Il va être question de romans, de BD, de récits de voyage, de films et de jeux de société. Nous allons parler de The Power of the Dog de Thomas Savage, le roman fleuve de Philibert Hume, une BD Une vie à écrire de Jérôme Félix et Ingrid Liman, Revenir à toi de Léonore de Recondo, de deux films La nuit du 12 de Dominique Moll et de Ondine de Christian Petzold. Ensuite, un petit récit, L'instant précis où Monet entre dans l'atelier de Jean-Philippe Toussaint. Puis du livre Nightmare Alley de William Lindsay Grisham. Enfin, des vertueux de Yasmina Kadra et du jeu de société Des mots. Et nous allons commencer avec Kimi pour The Power of the Dog.
Merci Anne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, pour changer, d'un livre en anglais, bien évidemment. Alors, The Power of the Dog, pourquoi me direz-vous ce titre? Ou en français, Le pouvoir du chien. Alors, le titre est en emprunt au psaume 22, verset 21 de la Bible, qui dit « Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens », que l'on retrouve en exergue du roman. Et ce cinquième roman en anglais de Thomas Savage, adapté depuis peu en film réalisé par Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, est en effet une forme de refonte moderne de l'histoire biblique de Caïn et Abel, dans une atmosphère, disons, plutôt ténébreuse. La vie est dure pour ces pauvres personnages, mais l'auteur parvient malgré tout brillamment à déconstruire le mythe du Far West, en misant sur une psychologie des personnages finement analysée. Chacun d'eux est d'une telle profondeur que vous ne pouvez absolument pas vous empêcher de ressentir de la compassion, même pour celui qui semble en apparence moins le mériter. Ce roman évoque en filigrane la complexité des âmes tourmentées. Et l'histoire tourne autour de deux frères. Ils sont originaires du Montana. Ce sont les frères Phil et George Burbank, qui sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel, autant George est flegmatique et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée. Et lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible, comme d'un pion dans sa stratégie sadique. L'amorosité du sujet nous rapprocherait plutôt des grands auteurs sudistes américains, dont Tennessee Williams et William Faulkner en tête, centrés sur de grandes familles terriennes corrompues aux personnages immoraux et désespérés, à l'image de l'atmosphère de ses romans « Le bruit et la fureur » ou encore « L'intrus » de William Faulkner. Univers masculin d'éleveurs de bétail, rude et taiseux, le ranch semble fonctionner comme un mécanisme avilissant, dénué de tout sens moral et sans considération. Les employés viennent travailler un temps, puis s'en vont, remplacés par d'autres anonymes. Et ici, Thomas Savage décrit un monde où le bruit des hommes est dominé par celui du labeur. En somme, c'est une adaptation cinématographique et un roman captivant et machiavélique pour les amateurs de suspense en terre sauvage. Et vous le retrouverez donc en langue anglaise à la Bibliothèque Morichon.
Merci beaucoup, Amy. Alors moi, je vais partir avec Roman Fleuve de Philibert Hume. Philibert Hume, il est journaliste au Figaro et à Paris Match. Et il a coécrit avec Pierre Adrian Le Tour de France de deux enfants d'aujourd'hui et Les tribulations d'un Français en France. Avec Roman Fleuve, il vient d'obtenir le prix Interallié. C'est un récit de voyage où le narrateur et ses deux amis trentenaires décident de descendre la Seine pour voir où ça les mène, histoire de vérifier si elle débouche bien sur la mer. Car non, Roman Fleuve n'est pas un gros pavé comme le laisserait supposer le titre. Mais à prendre au sens littéral, c'est un roman qui se passe sur le fleuve. Pour ce faire, ils ont besoin d'une coque. Ils vont acheter sur le bon coin un canoë et des pagaies. Mais pas n'importe quel canoë, c'est celui qui aurait appartenu à Véronique Sanson. Ils ajoutent une tringle de douche et son rideau pour se faire une voile. À bord de cette embarcation de fortune, nommée opportunément bateau, le sémillant trio entame son périple depuis Paris, le tout sans assistance et même sans notion de navigation. Il faut même de l'amateurisme leur philosophie. Le narrateur nous dévoile les étapes et les péripéties, les non-événements rythmant cette descente en pente douce, où leur aventure prend une toute autre dimension quand ils dépassent la jolie et la limite de validité du pass navigo. Il leur faudra ramer, écoper, affronter le courant fluvial, les péniches, le mascaret, et aussi se nourrir et dormir au fil de ces 360 kilomètres. Mais vous l'aurez compris, on rit beaucoup dans ce récit. C'est un pastiche étonnant de trois hommes et un bateau de Jérôme K. Jérôme. Une épopée bourrée d'esprit, où le narrateur manie les références et les digressions pleines d'humour, parfois philosophiques, historiques ou géographiques. Les anecdotes vont de la plus futile à l'enrichissante. Ils vantent les vertus des yaourts la laitière. Ils dressent un éloge de l'apéro, rappellent le plaisir d'écouter Autoroute FM hors autoroute. Et on y apprend le concept de décharge de vie ou de servitude de marchepied. C'est cocasse, pétillant. Les comparses réalisent que l'aventure est surtout dans la richesse des rencontres, avant les paysages. Et le peuple des berges, ces riverains de la Seine, est un monde bien surprenant. On a ainsi une galerie de personnages qui paraissent hors du temps. On croise Philippe Tesson et son père sur les rives de Chatou, qui d'ailleurs leur offrent des denrées pour leur périple, mais des victuailles pas du tout transportables comme une bourriche d'huîtres et du beurre. Et on croise aussi un tenancier de guinguette sur l'île de Platé, un monsieur qui tient les chantiers depuis 90 ans et un responsable de la passe à poissons du barrage de Pose, dont le métier consiste à compter les saumons qui remontent de la Seine. C'est une invitation à la rencontre et un hymne à l'amitié. C'est savoureux, intelligent, d'une insolence joyeuse et rocambolesque. L'autodérision court tout au long du récit, à commencer par tous les titres savoureux des chapitres. Tout est raconté de façon truculente et c'est rudement bien écrit, avec une écriture désuète, pleine de charme, un vrai bonheur de lecture. On va passer à une BD maintenant grâce à Aurore.
Alors, déjà j'avoue, je ne lis pas beaucoup de BD. À vrai dire, j'ai une amie qui est abonnée à la bibliothèque, qui en lit pas mal, et comme je lui sers souvent de mule pour lui apporter les BD qu'elle souhaite et qui viennent de Mourichon, voilà, bref, on se fait tous exploiter par quelqu'un, moi ce sont par mes amis. Donc, grâce à elle, mine de rien, eh bien, je découvre des titres, et récemment je me suis laissée porter par celui-ci, Une vie à écrire, de Jérôme Félix et Ingrid Limin. Le triptyque initial pensé par Jérôme Félix se transforme en diptyque sous le nom Hollywood Boulevard à sa première sortie en 2009, mais sera finalement réédité en un seul tome, intitulé donc Une vie à écrire. Dans cette BD, deux destins s'en mêlent. Celui de Billy, un jeune homme de la campagne profonde américaine, qui écrit, mais à qui on n'accorde absolument aucun crédit, et celui de Scarlett, une jeune femme prête à tout pour échapper à un avenir sordide dans cette même campagne. Par un aléa du sort, ils vont se retrouver à prendre le même chemin, celui d'Hollywood. Le Hollywood qui fait rêver, attention, qui incarne encore le rêve américain et le succès immédiat. Billy veut écrire des scénarios et Scarlett, elle, pourrait bien devenir la nouvelle égérie d'une grosse société de production. Mais à quel prix ? Car la vie des stars à Hollywood n'est pas le fruit du hasard, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les succès et les coups de mou sont prévus à l'avance, millimétrés, je dirais même scénarisés. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir à loisir cette BD et sa chute. Elle est d'ailleurs disponible donc à la bibliothèque Jacques Mourichon.
Merci Aurore. Et maintenant, grâce à notre fidèle et charmante lectrice Christiane, nous avons une nouvelle recommandation qu'elle nous a envoyée. Il s'agit de Revenir à toi de Léonore de Recondo, aux éditions Grasset, que l'on trouve à Saint-Corneille. Alors, pour l'histoire, Magdalena est comédienne. Un appel de son agent la prévient qu'on a retrouvé sa mère, Apollonia, disparue depuis 30 ans. Aussitôt, Magdalena se met en route et les souvenirs reviennent peu à peu. Lorsque Magdalena était adolescente, sa mère a fait une grave dépression et a quitté la maison du jour au lendemain, sans explication. Magdalena et son père sont venus vivre chez les parents d'Isidore, mais chacun s'est enfermé dans le silence et le ressentiment. Faire du théâtre lui a permis de supporter sa colère, sa solitude, la violence des non-dits et le sentiment d'abandon profond qu'elle éprouvait. Magdalena retrouve donc sa mère, qui vit comme une clocharde, les cheveux blancs hirsutes, la bouche pincée, le visage fripé, le regard d'acier, une colère sourde. Les premiers moments sont hostiles, pleins de colère, mais leur donnent aussi la possibilité de s'apprivoiser et de se rapprocher enfin. En mettant de l'ordre dans la vie de celle-ci, Magdalena va permettre à sa mère, dans un moment de lucidité, de dévoiler son passé de plomb et ce secret qui l'a broyé, sans qu'elle puisse en parler. Un très beau roman, plein de délicatesse, sur l'absence physique et sur le silence qui sépare et isole, tandis que la parole libérée, quelle qu'en soit l'expression, permet la réconciliation et la transmission. De très belles pages sur la violence des émotions, réprimées, et sur l'amour filial. Personne n'est rien avant d'être aimé.
Et vous, culture, des bibliothèques de Compiègne.
Cinéma maintenant avec La nuit du 12. C'est un polar noir de Dominique Moll qui a déjà réalisé Harry, un ami qui vous veut du bien, seules les bêtes et le moine. Ici, il affiche sa couleur dès le début. L'enquête que nous allons suivre restera irrésolue. C'est un film d'obsession, plus que de résolution, qui révèle comment dans toute unité de police judiciaire, une affaire marque plus que d'autres, trouble durablement. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara, immolée à 21 ans dans son village, près de Grenoble, alors qu'elle rentrait d'une soirée avec ses copines. Il faut savoir que cette histoire s'inspire d'une enquête relatée par Pauline Guénat dans son livre 18-3, une année à la PJ, que je vous avais présenté lors d'une précédente émission. La romancière y raconte l'année qu'elle avait passée à la PJ de Versailles. Dominique Moll reprend l'affaire Maud Maréchal, qui couvre une trentaine de pages du livre. Et il transpose l'intrigue à Grenoble. C'est une excellente idée, je trouve. Elle permet d'installer un climat d'une beauté froide, où les personnages sont cernés par les montagnes, encastrés dans la vallée. Les massifs alpins offrent un décor tout hitchcockien, voire lynchien, propice au mystère mélancolique qui domine dans ce film, qui a d'ailleurs bien des points communs avec Twin Peaks et le meurtre de Laura Palmer. Au fil de l'enquête, le souvenir de Clara se fait si pénétrant qu'il vient hanter les membres de l'unité, laissant place aux démons intérieurs de chacun, des fantômes invisibles, jusqu'à créer une atmosphère qui flirte avec le fantastique. C'est pourtant d'une façon réaliste que Dominique Moll nous embarque dans la PJ de Grenoble, une immersion qui permet d'observer des enquêteurs qui s'obstinent avec peu de moyens dans une enquête qui ne mêle nulle part et crée des tensions. C'est un portrait de ces policiers pleins d'amertume, en souffrance, dû aussi à leur situation personnelle, soit par un divorce douloureux, soit une solitude pesante. Le capitaine Johan Vives va être littéralement rongé par cette enquête qu'il fera tourner en rond, comme lorsqu'il pédale avec acharnement sur son vélo. Il ne cesse de travailler et d'être travaillé par cette affaire, où les suspects défilent, tous peuvent être coupables, mais jamais de preuves suffisantes n'apparaît. Et plus l'enquête piétine, plus il prend conscience du monde qui l'entoure. Car si elle ne résout rien, l'enquête permet de sonder les âmes. Ce film nous dit d'une façon magistrale comment les hommes se retrouvent confrontés à un féminicide qui met les enquêteurs en face de leur propre attitude envers les femmes. Sans être un pamphlet féministe, il suscite une réflexion, comme un polar en quête de sens sur la misogynie systémique de notre société. Ce questionnement est subtil et d'autant plus puissant que le film est dans les purs. Les dialogues sont justes et ciselés, il sidère dans la violence des propos, comme dans ses répliques « Elle est morte parce que c'est une fille ». Vous ne trouvez pas ça bizarre que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et que ce sont majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre ? Ça doit être ça, un monde d'hommes. Toute l'essence de ce film découle de cette problématique. Tous les acteurs sont remarquables, d'un magnétisme époustouflant. Bastien Bouillon et Bouli Lanners méritent largement un prix d'interprétation au prochain César. Et Dominique Moll pour sa réalisation, son art du cinéma, à la fois sobre et captivant, profond et existentiel. On va écouter la bande originale. Darkness took me by surprise. Romance left a bitter sweet taste in my mouth. Can you hear my soul howling through my bones? Lost is like an empty sky. Sister, we are lilies dancing in the cloud. Could this sorrow go not to see you grow? Love will ever glow. Love will ever glow. My men always act like fools. Be there any chance for gathering as one? Recalls the spring to come. Sweetness has the smell of wildflowers in bloom. Did you tell the moon that your name was June? Love will ever grow.
Bien, merci Anne pour cette douce musique que tu as choisie. Donc, bande originale de La Nuit du 12, faite entièrement par Olivier Margery. Et là, au chant, on avait Mina Tindall.
Et donc, je vais vous présenter de mon côté donc, le film Ondine de Christian Petzold. Et on va donc plonger ensemble dans l'univers aquatique de Ondine. Et ici, Ondine, c'est un film allemand et français également, réalisé en 2020 par Christian Petzold avec Paul Abir et Franz Rogowski. Christian Petzold, c'est un chef de file du nouveau cinéma allemand. Il a remporté d'ailleurs pour ce film le prix de la critique à Berlin, ainsi que celui de la meilleure actrice décerné à Paul Abir. Alors, le personnage d'Ondine est à l'origine un mythe germano-nordique qui a inspiré la célèbre pièce de Jean Giraudoux en 1939 et à plusieurs reprises le 7e art. Toutefois, la variation de ce mythe par le réalisateur allemand lui a été directement inspirée par une nouvelle de la poétesse autrichienne Ingeborg Bachmann qui s'intitule « Ondine s'en va ». Le mythe grec raconte, quant à lui, donc l'histoire d'une jeune fille vivant dans un lac que de jeunes hommes au cœur brisé viennent chercher en quête d'amour. Cette requête est un contrat et en échange de son amour, Ondine demande à ses hommes de l'aimer à jamais. Si elle est trahie, dit la légende, elle doit tuer l'homme infidèle et retourner dans les eaux d'où elle est venue. Alors dans le film, lorsque son amant Johannes, interprété par Jacob Maschens, l'informe dans une merveilleuse scène d'ouverture qu'il la quitte pour sortir avec son ex-petite amie, Ondine est dévastée et elle dit « Si tu me quittes, tu dois mourir », se sachant à la merci de l'antique légende. La jeune femme conférencière à l'Institut d'urbanisme de Berlin a pourtant décidé de défier la fatalité. Sa rencontre avec Christophe, interprété par Franz Rogowski, scaphandrier de métier, leur coup de foudre d'ailleurs réciproque est littéralement matérialisé à l'écran par un aquarium qui se brise et les submerge, va l'aider momentanément à passer outre la malédiction. Alors elle veut croire que l'amour pur et sincère que cet homme éprouve pour elle est un puissant antidote à sa malédiction, mais des forces obscures sont à l'œuvre, menaçant constamment ce nouvel équilibre et rappelant à Ondine sa vraie nature. Le récit prend alors toute sa dimension de fable poétique avec les évocations aquatiques de sa bande-son et ses très belles scènes de plongée dans un lac de barrage, peuplé de vestiges industriels dont l'univers semble tout droit sorti de 20 milieux sous les mers, le film de Richard Fleischer, dont Christophe Petzold dit s'être inspiré. Alors, il y a plusieurs originalités dans ce film. Tout d'abord, la restitution dans de longues séquences des conférences d'Ondine sur l'histoire de Berlin et sur celle du Forum Humboldt. Donc elle retrace vraiment assez classiquement l'histoire de l'architecture de la ville à partir de maquettes géantes. Et ensuite, on a tout au long du film la profonde mélancolie de la pièce de Bach qui est intitulée donc, le concerto en ré mineur BWV 974, donc l'adagio de Bach, au piano, que je vous invite d'ailleurs à découvrir ou à redécouvrir. Et enfin, la couleur rouge que l'on retrouve de bout en bout durant tout le film, c'est à la fois le symbole de l'amour, de la passion, mais aussi du danger. On retrouve cette couleur sur les murs en briques de Berlin, le bus et le train qu'emprunte Ondine, exaltée pour retrouver son amoureux, mais aussi les gouttes de sang sur la chemise de la conférencière, provoquées par les bris de verre de l'aquarium, la tache de vin sur le mur, fruit d'un geste maladroit, la couleur de l'habit du scaphandre, celui des fleurs et des ébrures des poissons. Disons que c'est ici un film d'une ambiance plutôt singulière, onirique et fantastique. C'est d'ailleurs un de mes coups de cœur comme film que je ne cesse de revoir. Et c'est un splendide mélodrame sentimental dans le Berlin contemporain. Donc c'est un film rare, puissant et un savant mélange de romantisme et de mélancolie que je vous conseille vivement.
Merci beaucoup, Amy. Alors, pour ma part, je vais vous parler d'un petit récit. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Un titre qui donne envie de pousser la porte pour guetter le peintre, n'est-ce pas ? C'est avec ces mots que l'auteur commence régulièrement un paragraphe. Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier. Une phrase insignifiante, mais pourquoi à cet instant précis ? De ce minuscule roman plein de poésie dont seuls les artistes ont le secret, Jean-Philippe Toussaint nous immerge dans la conception sans fin des fameuses nymphéas de Monet. L'écriture est d'une simplicité pure, elle coule de façon aussi fluide que l'heure ou la scène qui borde Giverny. On se repasse une partie de l'histoire avec un grand H en retraçant la création de ces tableaux à l'allure immense. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier, un tout petit roman à dévorer sous le plaid près d'un feu de cheminée, ou sur un banc quand viendra le printemps.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, on va revenir dans le monde anglo-saxon avec donc le roman Nightmare Alley de William Lindsay Grisham. Donc, j'avais beaucoup apprécié l'univers de Guillermo del Toro avec son film La Forme de l'eau, sorti en 2017. Et j'ai su qu'il avait réalisé donc un nouveau film basé sur ce classique de la littérature américaine, donc Nightmare Alley. Alors, pour vous donner juste quelques éléments sur ce film, donc, il est néanmoins un remake du film du même nom en noir et blanc, qui avait été réalisé par Edmond Goldwyn en 1947 et sorti en France sous le titre Le Charlatan. Alors, revenons au roman. Alors, ce roman, tout autant que le film, nous propose une atmosphère plutôt sombre et un univers aride. L'histoire tourne autour du personnage de Stan Carlyle, un écorché vif qui, fuyant un passé obscur, tente d'apprendre le métier de mentaliste au contact d'un vieux couple d'arnaqueurs résidant dans une foire itinérante appelée la Carnival, qui est peuplée de freaks en tout genre. Ils deviennent sa nouvelle famille et lui apprennent les ficelles du métier. Notre héros y trouve non seulement l'amour auprès de Lilith, mais aussi un nouveau sens à sa vie. Le couple complice va s'associer également en affaires comme un couple de médiums, essayant de réfléchir et d'analyser le mensonge et ses conséquences. Et donc ça a été vraiment un film coup de cœur également, donc que je vous conseille.
Merci Amy. On reste dans un roman, mais dans un tout autre univers avec les vertueux. Après l'attentat, les hirondelles de Kaboul et les sirènes de Bagdad, les vertueux confirment encore une fois l'immense talent de Yann Smina Kadra. Avec son intrigue foisonnante, il est même dans la veine de Ce que le jour doit à la nuit, un grand roman où des histoires personnelles racontent la grande histoire. Yann Smina Kadra nous raconte l'Algérie de la première moitié du XXe siècle, à travers la vie d'un homme ballotté par le destin. C'est Yacine, un jeune berger qui vit dans la précarité avec sa famille dans son douar, un petit village algérien. À l'automne 1914, il est convoqué au domaine du seigneur de la région, Gaïd Brahim, à qui l'on ne peut rien refuser. Son fils a été déclaré inapte au combat. Or, le nom d'Ebrahim doit être glorifié. Ainsi, Gaïd Brahim impose à Yacine de prendre le nom de son fils et de le remplacer pour partir au front, où il devra se conduire en héros, ramener des médailles pour dorer le blason du chef. En échange, il s'engage à prendre soin de sa famille et de lui offrir une ferme à son retour. Yacine part donc avec l'espoir d'une vie meilleure, mais après 4 ans à essayer de survivre parmi les horreurs de la guerre, le retour au pays sera plus que douloureux. Yacine devra fuir tout en recherchant sa famille. Il va accumuler les épreuves, affronter le dénuement, côtoyer la violence. Au cours de son périple, il renoue avec des anciens compagnons de guerre, les Turcos, ces tirailleurs algériens qui ont servi dans l'armée française. Il se retrouvera embarqué avec un farouche indépendantiste dans une rébellion désespérée et connaître le sort de tant d'indigènes privés de leurs droits et qui n'avaient qu'à obéir. Il ne s'agit pourtant pas d'un roman sur le colonialisme. Les Français ne sont présents qu'en arrière-plan. Et ce sont les rencontres avec d'autres Algériens qui vont façonner son existence. L'histoire est prenante, truffé de rebondissements, de trahisons. On est embarqué dans ces aventures qui nous font voyager sur les hauts plateaux et dans le désert algérien et découvrir les villes d'Oran et de Sidi Bel Abbès. L'intérêt romanesque réside en grande partie dans le caractère altruiste du héros. C'est un doux, naïf, toujours prompt à aider, une proie facile pour tous les manipulateurs. Et malgré ses mésaventures incroyables, il garde en permanence l'espoir. Sa résilience à toute épreuve en fait un personnage attachant et même magnifique. La narration à la première personne nous donne la sensation d'être au plus proche de ce personnage. On voit et on ressent avec ses yeux pleins de candeur. Et c'est d'ailleurs cette gentillesse qu'il sauve de ses malheurs, les sentiments, l'amitié qui s'est créée dans la promiscuité étouffante des tranchées et des garnisons et qui perdure au-delà de la guerre. Cette ode à l'amitié questionne les notions de pardon, de destin, d'exil intérieur et de fatalité avec un vrai souffle romanesque. Et après toutes ces lectures, eh ben, on va jouer.
Oui, Anne, jouons. J'adore jouer. Alors, moi, je vais vous présenter un jeu de société qui s'appelle Des mots. Des, comme un dé à jouer, et mots, comme ceux que l'on prononce. Un jeu de société à partir de 8 ans, à faire en famille ou entre amis. L'idée du jeu est la suivante. Vous partez de la case départ, jusque-là tout va bien, pour arriver au bar des écrivains. Mais pour y arriver, vous avez le choix du chemin que vous pouvez emprunter. plutôt polar ou poète, romantique ou violent. Au gré des lancers de dés, les participants doivent écrire de courts textes en cumulant une ou plusieurs contraintes. Le genre, par exemple, en est une, ou il peut s'agir d'une photo qui doit servir de base à l'inspiration commune, ou un mot imposé à introduire dans le petit texte qui va être rédigé. Pas facile d'écrire quelques lignes de romance en regardant la photo d'un immeuble tout en intégrant le mot pamplemousse, n'est-ce pas? Et le tout en 3 minutes, évidemment. Voilà, pourtant les résultats sont là, et celui de notre voisin n'est pas du tout le même que le nôtre, et pas du tout encore le même que celui d'après. C'est vraiment une expérience de jouer à des mots, parce qu'on se demande parfois si notre cerveau est fait comme il faudrait. Ou en tout cas, on se dit qu'on est vraiment différent, parce qu'avec les mêmes bases, on arrive à faire des textes qui n'ont rien à voir. À la fin de notre petit moment d'écriture, on partage nos écrits, du coup, avec bienveillance, évidemment. Et puis, on vote pour notre texte préféré. Et celui qui a gagné pioche une surprise. Et souvent, c'est pas une bonne surprise. Donc, à la fois, on vote pour un texte qu'on a bien aimé. Et puis, en même temps, ça fait un petit coup de couteau dans le dos à celui pour lequel on a voté. Qui se retrouve plus avec un gage qu'avec une surprise, en général. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, le dé est relancé et la partie continue. Donc des mots, c'est plutôt un jeu qui décoince la créativité, même de ceux qui se croient nuls, hein, parce que j'en entends toujours dire « Ah non, mais moi j'ai absolument pas de créativité, je saurais pas faire ça ». Donc en fait, il y a deux écoles. Il y a soit on va tous comprendre très vite qu'on est tous nuls, et du coup la rigolade est assurée, ou soit on va commencer à penser que finalement écrire, c'est pas si compliqué, et c'est même plutôt fun de le faire à plusieurs. Dans les deux cas, ça vaut la peine de se lancer.
Génial. Merci beaucoup Aurore. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de The Power of the Dog de Thomas Savage, de Roman Fleuve de Philibert Hume, Une vie à écrire, la BD de Jérôme Félix et Ingrid Liman, Revenir à toi de Léonore de Recondo, de La nuit du 12 de Dominique Moll, de Ondine de Christian Petzold, L'instant précis où Monet entre dans l'atelier de Jean-Philippe Toussaint, de Nightmare Alley de William Lindsay Gresham, des Vertueux de Yasmina Kadra, et du jeu des mots. En ce moment, vous pouvez aller voir une exposition dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille, Le futur vu par le 9e art, proposée par les étudiants de la BD Tech de l'UTC. Il s'agit d'une exposition rétrospective sur la science-fiction, mise en cases et en bulles, avec notamment les BD Akira, Métal hurlant, Carbone et Silicium, ainsi que les œuvres de Moebius et Enki Bilal. Ce soir, à 20h15, vous pouvez assister à la projection du premier épisode de l'excellente série que je vous avais présentée à cette émission, Deutschland 83, avec l'association Compiègne Landshut. C'est dans le cloître de la bibliothèque Saint-Corneille. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous et je remercie mes partenaires, Amy et Aurore, Léo pour son aide, ainsi que Christiane pour sa participation toujours très intéressante. Merci beaucoup Christiane. Et on se retrouve pour le prochain rendez-vous culture dans le cloître le 17 mars. Et à la radio, le 24 mars à 18h. Et une émission bonus spéciale série, le 31 mars, à laquelle vous pouvez participer si vous voulez nous recommander une série. À très vite et très bonne soirée.